viva il vino spumeggiante, nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante, vita infonde il giubilo. Viva il vino spumeggiante.
Le Festival d'Opéra de Saint-Céré a lieu en ce moment même, depuis le 29 juillet et ce jusqu'au 11 août, avec une programmation placée sous le signe du renouvellement dans la continuité, continuité dans l'âme du festival, et renouvellement avec, entre autres, la nomination d'un nouveau conseiller artistique, Jean-Baptiste Henriat. Et Jean-Baptiste Henriat est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Alors, donc, vous êtes le nouveau conseiller artistique du Festival de Saint-Céré, mais est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Parce que qui êtes-vous, finalement, Jean-Baptiste? Moi, je ne vous connais pas, hein. Enfin, pas beaucoup, disons.
Bah, écoutez, d'abord, je suis musicien. Je l'ai été pendant un certain nombre d'années. J'ai été chanteur, et vous savez que la tradition vocale, orale, elle est importante dans l'histoire de ce Festival de Saint-Céré, parce que c'est un festival qui, longtemps, a été porté par l'opéra, qui en a été la discipline majeure. Donc c'est un art avec lequel j'ai une proximité naturelle, puisque c'est dans ce domaine que j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. Et puis depuis de nombreux mois maintenant, je travaille sous une autre forme, mais toujours dans le domaine de la voix, puisque je suis actuellement le délégué général du chœur de Radio France, donc qui est une formation vocale professionnelle permanente qui regroupe aujourd'hui environ 80 chanteurs professionnels. Et puis j'accompagne quelques projets dans la dimension de programmation artistique, c'est le cas avec le Festival de Saint-Céré, qui donc est porté par Scénographe, en fait, que j'accompagne aux côtés de Véronique Dau, sa directrice générale. Scénographe qui donc est cette scène conventionnée d'intérêt national basée à Saint-Céré, qui rayonne sur le territoire lotois et qui, parmi ses multiples activités, porte le Festival de Saint-Céré, qui est une sorte de temps fort musical, mais au sein d'une offre qui est une offre pluridisciplinaire qui se déploie dorénavant tout au long de l'année.
Mmh. Alors moi j'ai quand même une petite question à vous poser. En quoi consiste votre poste de délégué général au cœur de Radio France? Ça m'intrigue.
Alors les postes de délégués généraux dans les formations musicales permanentes, vous savez qu'on distingue dans la musique en général les ensembles dits indépendants. Les ensembles indépendants sont constitués de musiciens indépendants, autonomes, qui souvent travaillent sous le statut d'intermittent du spectacle et qui se regroupent pour des projets. On les distingue des ensembles permanents qui, eux, sont des ensembles qui existent avec des salariés, qui sont des musiciens recrutés quasi toujours exclusivement sur concours et qui ensuite ont un déroulement de carrière. Donc, c'est le cas dans toutes les grandes institutions musicales du pays, hein. C'est le cas des artistes de l'Opéra de Paris, c'est le cas des artistes de quasiment tous les opéras nationaux en région. C'est le cas de beaucoup d'orchestres labellisés également nationaux à Paris et en région. Et puis Radio France a trois formations musicales permanentes, que sont les deux orchestres, l'Orchestre National de France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, et puis le Chœur de Radio France, donc avec ses chanteurs adultes professionnels. Je dis adultes parce qu'il y a aussi à Radio France une maîtrise, c'est-à-dire un chœur d'enfants, qui est un projet à la fois pédagogique et artistique qui vient compléter le paysage. Donc, il y a en fait quatre formations permanentes, mais trois professionnel à Radio France. Et mon rôle auprès du chœur, le rôle du délégué général, mais écoutez, c'est un rôle qui est double, hein. C'est une double casquette, à la fois une casquette, j'ai envie de dire, organisationnelle, économique et sociale, c'est-à-dire faire tourner la boutique, hein, d'une certaine manière, de manière un peu pragmatique. Et puis, il y a une casquette artistique qui consiste à développer le projet, développer sa visibilité, développer les relations de la formation avec tout son écosystème artistique. Et l'écosystème artistique, c'est celui formé par les chefs, les compositeurs auxquels on passe des commandes d'œuvres, et puis les artistes interprètes que nous invitons et avec lesquels on co-construit la saison de concerts qui est proposée essentiellement à la Maison de la Radio, mais surtout proposée à l'ensemble des Français grâce à l'antenne de France Musique, parce que ce sont des formations musicales dont la vocation première est radiophonique. C'est-à-dire que la mission essentielle consiste à enregistrer la musique sur la case concert qui est celle de France Musique. C'est-à-dire qu'on a à la fois un auditorium qui est un auditorium de 1500 places dans lequel nous accueillons les spectateurs, qui sont les spectateurs parisiens. Mais cet auditorium, c'est aussi un très grand studio de radio, puisqu'en fait, on a bonheur à dire que dans notre salle de concert, on accueille 150 000 auditeurs qui nous rejoignent pour chacun de nos concerts. Donc voilà cette belle mission, qui est une mission au service de l'antenne et puis au service du public physique.
Mmh. Oui. Ben merci beaucoup pour ces explications, c'est plus clair. on va revenir sur le Festival de Saint-Céré. Comment vous êtes devenu conseiller artistique du Festival de Saint-Céré ?
C'est une rencontre, comme ça l'est souvent dans le milieu artistique et musical, parce qu'à la base de tout, il faut avoir envie de travailler ensemble. Il faut avoir une proximité, comme ça, une vision commune qui nous mobilise. Et c'est le cas avec Véronique Dau. Véronique Dau que j'ai rencontrée à la faveur de ce qui a été l'événement le plus tragique de ces dernières années pour le domaine du spectacle vivant, mais qui a été l'épidémie. Parce qu'en fait, avec Véronique Dau, nous avons réfléchi l'année dernière, donc lors de la précédente édition du festival, peut-être que le mot est un peu fort, mais l'année dernière, en tout cas, on a réfléchi à une manière de présenter la musique dans le contexte qui était celui de l'été dernier, de forte épidémie et puis d'annulation en France de quasiment toutes les manifestations musicales, plus largement du spectacle vivant. Et donc, on a commencé ensemble à brosser un tableau à partir de là, puisque dès l'année dernière, on a organisé des petites choses très légères, très transportables, en allant jouer dans les EHPAD ou dans des tout petits lieux pour des tout petits publics, de manière à la fois très informelle mais très accessible aussi pour le public, assez inattendu, il faut bien le dire, dans ce paysage culturel assez dévasté de l'été. Et puis à partir de là, ben voilà, vous savez, on se rencontre et puis on phosphore, on imagine. Véronique Dau était un tournant de son projet, puisque donc ça fait quelques mois que scénographe a vu son conventionnement de scène conventionnée d'intérêt national renouvelé. Donc à l'occasion de ce renouvellement, il y avait évidemment une réflexion à mener. J'ai eu grand plaisir d'y participer aux côtés de Véronique et d'accompagner ce projet, qui est un projet très rare, très ambitieux, qui est un très beau projet, puisque il a une double mention, ce projet, dans son conventionnement avec les tutelles, une mention création et une mention territoire. Ce qui est assez rare, normalement les scènes conventionnées ont une mention de prédilection. Il y a là une mention territoire qui est assez naturelle, parce que c'est une scène conventionnée sur un territoire rural. Donc, il est question comme ça d'embrasser toute la diversité de ce paysage et de l'habiter de propositions artistiques de diverses natures. Ce qui est très rare, c'est de voir cette mention-là qui se joindre à celle de la création. Et ça, c'est un propos qui en soi n'est pas très, très, très courant, très commun, et qui consiste à dire que la création n'est pas du domaine réservé des grandes métropoles ou des grandes institutions. La création, elle a sa place aussi dans une scène conventionnée, dans un territoire rural et auprès d'un public qui a toute la diversité du public de Saint-Céré. Et là où c'est très intéressant, c'est que ça permet de travailler cette notion de création de manière un petit peu différente que celle avec laquelle on la travaillerait dans une grande métropole ou dans une très grande institution, parce que là, on a la capacité de l'embrasser de manière très globale, c'est-à-dire que la création dans un projet qui est un projet pluridisciplinaire, parce que scénographe, ce n'est pas un projet musical, c'est un projet pluridisciplinaire, et ben c'est plein de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez redonner un Molière dans une relecture contemporaine de ce Molière, vous faites de la création. Et quand vous commandez à un compositeur vivant une pièce de musique nouvelle, une pièce de musique inouïe jusqu'alors, mais vous êtes dans la création. Pourtant, vous faites des choses extrêmement différentes. C'est-à-dire que la porosité entre les œuvres du patrimoine et les œuvres nouvelles, elle est tout d'un coup beaucoup plus grande. Et on joue avec cette notion de création lorsque l'on revisite, lorsque l'on crée, lorsqu'on propose des choses sous des formes différentes. Et ça, c'est très intéressant et très singulier, je crois, au projet de scénographe.
Alors justement, est-ce que la résidence d'artiste là, que vous proposez, avec notamment Vent de Jeunesse, entre autres, ça fait partie de ce projet ? vous rentrez pas exactement, mais ça fait partie un petit peu de ce projet dont vous me parlez.
Ben, cette résidence d'artiste, qui est une chose assez nouvelle, alors c'est une résidence de musiciens chambristes hein, qui viennent dans le cadre du festival travailler des programmes, préparer des programmes spécifiquement pour le festival. Effectivement, cette résidence, elle répond à ça, en tout cas, elle donne les premiers signaux de ce que sera à l'avenir cette résidence qui a vocation à perdurer et puis à se développer. L'idée de cette résidence, elle part du public, en fait. La réflexion, c'est de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui on propose au public, dans une activité qui, là, est une activité de musique de chambre, des programmes qui ne sont pas proposés ailleurs par d'autres festivals de musique de chambre. Vous savez que le festival, l'objet festival, c'est une chose qui est assez typique du paysage culturel français, parce qu'il y en a énormément en France. Il y a énormément de ces festivals, dans toutes les esthétiques d'ailleurs. On en est extrêmement friands en France. Et quand on programme ce type de manifestation, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on va réussir à proposer quelque chose qui n'a pas déjà été vu 15 fois dans l'été ailleurs en France. Parce que les publics des festivals sont des publics qui circulent, parce que les uns vont fréquenter les festivals sur le territoire qui est le leur, là où ils habitent, et puis les autres sur des territoires qui sont des territoires qu'ils traversent à l'occasion de leur congé et des vacances. Et les musiciens, c'est pareil. Les musiciens, ils circulent tout l'été de festival en festival, et beaucoup peuvent jouer quand même sensiblement la même chose, et les programmations sont quand même très homogènes, disons-le. Et dans un projet qui est un projet ambitieux, hein, celui de cette scène conventionnée, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire ça. On s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à faire autre chose, à proposer quelque chose qui soit un pas de côté, qui soit quelque chose de singulier, d'original et qui caractérise une proposition artistique. La résidence, elle permet d'atteindre cet objectif. Alors après, comment ça marche ? Eh bien, en fait, ce sont des musiciens que l'on accueille à Saint-Céré, mais pour une période longue. C'est-à-dire, ce ne sont pas des musiciens qui descendent du train, jouent le programme qu'ils jouent tout l'été et puis repartent le lendemain. Ce sont des gens qui s'installent pour la durée du festival, qui répètent sur le lieu du festival, sur notre territoire, qui répètent, qui créent les programmes que nous allons présenter au public. Ce qui veut dire que les choses se créent sur place et elles se créent aussi devant le public, parce que le public aura l'occasion de croiser ces musiciens. Les musiciens, ils vont répéter tout simplement au théâtre de l'usine à Saint-Céré, dans la salle dans laquelle il y a une exposition en ce moment qui est consacrée à la longue histoire de ce festival. Tous les passants, tous les curieux qui viendront découvrir cette exposition auront très probablement l'occasion de tomber sur un bout de répétition auquel ils seront évidemment invités à assister et à tendre l'oreille. Les choses se créent là, elles se créent avec les musiciens, elles se créent à partir de leur désir, c'est-à-dire à partir de leur envie qui existe chez tous ces musiciens de jouer des choses sous des formes, de jouer des répertoires qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de jouer ailleurs et dans des formes qu'ils ne s'autorisent pas forcément non plus ailleurs. On part de ça et voilà, et on construit ensemble. Et puis, et le public, lui, participe aussi à cette résidence en venant déjà assister aux répétitions s'il le souhaite, mais surtout en retrouvant cette sorte de compagnie de musiciens. Ça n'existe pas en musique. La notion de compagnie en théâtre, elle est assez commune. Hein. C'est un chemin que partage ensemble un certain nombre d'artistes. Elle existe dans le théâtre musical, dans l'opéra, dans l'opérette, bien évidemment. Dans la musique instrumentale, elle existe assez peu. Vous avez des ensembles constitués, que sont souvent des quatuors à cordes, des trios. Voilà, ce sont des ensembles qui sont inamovibles hein, dans leur structure, dans le choix des musiciens et qui voyagent ensemble. Bon, mais là, ce n'est pas ça. C'est un groupe d'une dizaine de musiciens qui se rencontrent et qui occupent les uns et les autres des places très différentes dans cette sorte de famille musicale. L'un joue un jour en soliste et le lendemain dans un autre programme en accompagnant l'un de ses collègues. Et pour le public, eh ben, c'est l'occasion de voir le même musicien endosser des rôles très différents, occuper des places très différentes, de le découvrir dans des répertoires différents. Et voilà, c'est en soi un petit trajet, un petit voyage qu'on propose au public à l'occasion de cette résidence.
Oui, parce que si je regarde le programme justement dans la résidence d'artistes, donc il y a le premier concert donc, qui est une œuvre d'Ernest Chausson, qui est peu jouée. Hein. Et donc dans cette œuvre, ben, vous avez par exemple Eva Zavaro au violon, Raphaël Sévère à clarinette, hein, qui vont jouer. Et Le concert suivant, ce sera Mozart. Alors là, on est dans des styles complètement différents.
On est dans des esthétiques qui sont très différentes. Alors, effectivement, le premier programme de cette résidence de musique de chambre, c'est un programme qu'on a appelé « Vent de jeunesse » autour de cette œuvre qui est le concert d'Ernest Chausson, qui est une œuvre majeure du répertoire chambriste et pourtant, comme vous le dites, assez peu jouée parce que la forme, qui est la forme de cette œuvre, eh bien, en réalité, voilà, fait que lorsque vous programmer un festival de forme un petit peu plus traditionnelle, c'est très difficile à monter parce que c'est pas du quatuor à cordes, c'est pas de l'orchestre, c'est pas du quintet. Non, c'est un violon solo qui joue une œuvre qui s'apparente à un concerto pour violon. Donc un violon solo qui ici est Eva Zavaro, accompagné d'un quintet, c'est-à-dire d'un quatuor et d'un piano, un quatuor à cordes et d'un piano qui ici a fonction d'orchestre d'une certaine manière. Et c'est voilà, cette œuvre concertante assez hybride qui tend vers le concerto parce que c'est une œuvre extrêmement virtuose, c'est un des sommets du répertoire pour violon et dans ce programme il y a une œuvre, effectivement vous l'avez noté avec clarinette, bravo de l'avoir remarqué, à laquelle participe Raphaël Sévère et Raphaël Sévère est la grande figure du deuxième programme de la résidence de musique de chambre qui est un programme construit autour du quintet avec clarinette de Mozart, donc Raphaël est vraiment la figure de proue de ce deuxième programme autour du quintet avec clarinette de Mozart, mais vous avez remarqué je vous en félicite, qui participait également au premier programme parce que c'est ça l'idée que je vous décrivais précisément. Raphaël Sévère, c'est probablement le plus grand clarinettiste français et l'un des plus demandés à l'international.
Et jeune.
Oui, absolument. C'est une jeune génération d'instrumentistes avant que le monde entier nous envie. Et Raphaël, il vient tenir sa partie dans le premier programme qu'Eva Zavaro incarne, bien évidemment. Et Raphaël, on peut le découvrir comme ça dans trois programmes, dans trois répertoires très différents, parce que Raphaël participera aussi au dernier concert de la résidence de musique de chambre, qui est donné le 10 et le 11 août autour de Brahms et de Fauré. Donc voilà, c'est bien l'idée de cette porosité entre les programmes, les formes, les répertoires et la multiplicité des formes entre les artistes, avec les artistes.
Vous avez travaillé sur toute la programmation du festival de cette année ?
Non, parce que, alors vous savez, c'est une édition très particulière, encore une fois. Alors, on aurait aimé d'abord que ce soit une édition un petit peu plus normale, mais vous le savez, l'activité du spectacle vivant, elle reste cet été encore très fragile. Chaque jour de gagné et chaque rideau qui se lève est toujours une victoire. Parce que l'environnement sanitaire reste très, très incertain et l'environnement réglementaire, lui, très mouvant, encore de jour en jour. Et l'édition de cet été, elle est construite quand même essentiellement sur des propositions qui étaient des propositions du festival annulé de 2020. Puisque, vous le savez, donc, l'opéra est une forme, et peut-être la forme principale, et historiquement la forme dominante de ce festival, et les productions d'opéra sont des choses assez lourdes à monter, assez lourdes à porter, et les deux programmes d'opéra qui sont proposés cette année sont deux programmes qui malheureusement n'ont pas pu être présentés l'été dernier. Bon, Mais là, les représentations commencent. Donc, je pense que toutes les équipes qui ont énormément travaillé sur ces spectacles touche du bois, espère aller au bout. C'est comme ça que ça se dessine. Donc voilà, il faut maintenant être confiant. Mais voilà, ce sont des choses qui ont été longuement maturées, notamment par la compagnie Opéra Éclaté qui présente ses programmes. Et puis il y a d'autres programmes qui étaient proposés l'année dernière. Hein, c'est vrai, du programme symphonique et concertant autour de Beethoven qui jouait le 6 et le 9, notamment, qui voilà, sont des programmes en report. Donc c'est une édition un petit peu hybride, mais je crois que ça, c'est quand même surtout de la cuisine interne, si vous m'autorisez cette expression pas très jolie, parce que pour le public, ben, ce sont là des propositions qui sont toutes des propositions de jolis niveaux, de belles idées, de beaux projets, de beaux programmes, et finalement, voilà, qu'importe la manière avec laquelle tout ça a été chamboulé, ce qui est là cet été est là. Je crois qu'il faut inviter le public à s'en saisir et puis à venir renouer avec le spectacle vivant de manière générale, hein, parce que c'est ça l'enjeu principal de cette édition, je crois. Mmh,
oui, tout à fait.
Évidemment.
Alors, je dirais le public a besoin du spectacle vivant, et les artistes également. Les artistes, c'est ce que je dis souvent dans les interviews, hein, je le répète, je le répéterai toujours, les artistes ont besoin du public.
Mais oui, parce que sans le public, vous savez, on perd quand même, on perd le sens, on perd l'essence de cette activité. Hein. Alors les musiciens, pour la majorité d'entre eux, évidemment, n'ont pas arrêté de travailler, parce que sans quoi c'était la fin de leur carrière. Ils n'ont pas arrêté de jouer non plus. Ils ont eu souvent des occasions de se produire, mais dans des conditions qui n'ont rien qui n'ont rien d'enviable d'abord et rien de comparable à l'activité normale. J'en veux pour preuve les débuts des Vas Avaro, donc la violoniste dont on parlait à l'instant, les débuts d'Eva comme soliste avec l'Orchestre de Paris à la Philharmonie de Paris. Eva a fait ses débuts cette saison, mais dans une Philharmonie de Paris vide. Et elle n'a joué que pour les caméras qui venait capter ce concert pour le diffuser sur Internet. J'imagine que c'est une expérience quand même tout à fait singulière de jouer dans ces très, très grandes institutions. On parle de salles de 2400 fauteuils vides. Alors évidemment, ça doit sonner d'une manière très différente de la manière habituelle avec le public, mais évidemment, quand on a vécu ça, ce qui est le cas d'Eva, je pense qu'on souhaite qu'une chose, c'est retrouver un public véritable et une destination à ce qu'on fait, parce que la réussite d'un concert, c'est évidemment des musiciens très très concentrés, très engagés dans ce qu'ils font, généreux dans leur art, mais c'est aussi un public qui a une écoute active et qui reçoit ça, qui reçoit et qui traduit la chose, voilà, en émotion. C'est une forme d'art, comme toutes les formes d'art, qui a vocation à être vécue et à un moment à s'incarner. L'émotion doit s'incarner dans la chair des spectateurs, hein, d'une certaine manière, sans quoi c'est qu'une partie du trajet, hein, qui est effectuée. Donc cet été, c'est l'occasion de faire l'autre partie du trajet. Et voilà, j'espère vraiment que le public partagera ce désir.
Alors je vois que les concerts donc, que vous proposez là, les concerts en musique de chambre, enfin de musique de chambre, en fait, vous les proposez pas uniquement à Saint-Céré, hein. Il y a plusieurs endroits. Vente Jeunesse va être donnée, je sais, à la Source Salmière. C'est un endroit un peu unique. Vous le connaissez, cet endroit ?
Oui, absolument, ouais, tout à fait. Mais
c'est un bel endroit.
C'est inattendu, c'est un lieu de concert, voilà, un peu
c'est
inattendu.
C'est ça, tout à fait. Hein, donc, il y aura une représentation aussi dans l'abbatiale de Souillac, il y aura une représentation au Château d'Acier, etc. C'est une volonté de votre part aussi de sortir un petit peu, entre guillemets, hors les murs?
Je pense que c'est l'essence d'un festival, de pousser les murs. Hein. Le festival, moi j'ai coutume de dire que c'est tout ce qui déborde. Hein. Un festival, c'est tout ce qui ne rentre pas dans les cadres habituels d'une saison. Hein. Donc le festival, voilà, pousse les portes du théâtre et va investir le territoire de manière plus forte que ce qu'on pourrait faire évidemment dans le cadre d'une saison. Et puis ici, c'est l'occasion de donner à découvrir quand même des lieux qui sont des lieux de patrimoine, qui sont des lieux quand même assez incroyable de ce territoire lotois. Donc, c'est un trajet qui est proposé au public à double titre, hein. Le trajet artistique avec les programmes et puis il y a le trajet géographique aussi dont on ne se prive pas parce que la variété de ces lieux est telle que il serait vraiment dommage de ne pas aller les habiter et les faire vivre. Et puis, c'est quand même toujours de très jolies choses d'arriver à faire vivre ce patrimoine et toutes ces vieilles pierres de la musique, d'une musique qui a traversé les siècles elle aussi et qui vient faire résonner tout ça. Il y a quelque chose de très organique dans ces soirées, voilà, tout à fait magique dans tous ces lieux du patrimoine lotois.
Comment vous imaginez le festival de Saint-Céré là pour les années à venir?
Alors, le festival de Saint-Céré, d'abord, il a la grande chance d'être assis sur une histoire longue, hein, qui a plus de 40 ans. Le festival, il a vocation à évoluer dans la forme des concerts selon voilà, les principes que l'on commence à installer à partir de cet été, dans le croisement des répertoires, le croisement des esthétiques entre voilà, des choses qui sont du domaine du patrimoine musical et puis de la création et puis de tout ce qui ne rentre ni dans une case ni dans l'autre, mais qui bouscule l'ensemble. Il a vocation à évoluer dans la manière de présenter les œuvres. C'est ce qu'on fait aussi cet été, parce qu'en réalité, je dois vous avouer que vous ne savez pas tout sur les programmes de musique de chambre, qui réservent quelques surprises au public qui voudra bien venir s'asseoir et se laisser guider et se laisser emporter par les quelques surprises que nous avons préparées, que les ont préparé. Et puis voilà, pour ce qui est le festival continuera de travailler tous les domaines du théâtre musical, hein. On parle d'opéra, d'opérette, etc., d'opéra comique, parce que c'est son histoire, parce que c'est son identité, parce que c'est réellement son ADN. Il y a donc une histoire longue à cet endroit-là, vous le savez, avec la compagnie Opéra Éclaté, mais voilà, le festival, c'est un objet artistique vivant. Le festival fera d'autres rencontres, le public fera d'autres rencontres, et il y a de nouveaux artistes avec des esthétiques différentes, des répertoires différents qui viendront rencontrer le public dans les lieux dont il est familier. Et voilà, ce sera l'occasion de poursuivre ce trajet, poursuivre ce voyage avec des choses qui, j'espère, seront très ambitieuses, très audacieuses aussi, surprenantes, j'espère, pour le public, tournées évidemment vers la recherche du plaisir, parce qu'évidemment, on ne boude pas ça avec le public, du plaisir, mais aussi de la curiosité, de la découverte, parce que c'est notre rôle aussi d'emmener les gens où ils n'iraient pas d'eux-mêmes, évidemment.
Oui, tout à fait. Vous êtes venu chanter à Saint-Céré?
J'ai pas eu cette occasion.
Non, non, vous avez beaucoup
J'ai pas eu cette
chanté, mais
occasion et d'une certaine manière, disons que c'est un regret parce que le lieu est quand même assez extraordinaire. Je sais que la symbiose qui s'y crée entre les artistes et le public est vraiment une très belle chose, vraiment propre à ce festival. En tout cas, les artistes, lorsqu'on leur propose de venir se produire dans ce festival, sont heureux et ça, c'est quand même un très bon signe.
Oui, c'est vrai. Toutes les personnes que j'ai interviewées, hein, jusqu'à présent étaient ravies d'être à Saint-Céré, hein. Ça, c'est vrai.
Mais oui.
L'accueil, c'est ça. Il y a l'accueil, mais il y a aussi il y a une ambiance, une atmosphère particulière entre les musiciens. Et ouais, tout à fait.
Je crois aussi.
Alors, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon festival.
Eh bien, merci beaucoup du temps que vous offrez à l'explication de ce projet. Il est rare, il est précieux, donc merci. Alors,
Eh bien, avec
souhaitons
plaisir.
un bon festival, souhaitons un bon festival à tous les artistes qui viennent s'y produire, mais aussi et surtout au public, dont on espère qu'il viendra profiter de ce moment de retrouvailles, nombreux, parce que ce moment est précieux et celui-ci se présente, alors il faut le saisir, puisque mois après mois, nous sommes encore dans une époque incertaine, donc saisissons ensemble cet instant pour en faire quelque chose de magique.
Merci beaucoup Jean-Baptiste, au revoir.
Merci, très bonne journée, au revoir.